Bonjour et bienvenue dans le Buzz Télé de TV Magazine. Nous sommes partis pour 30 minutes de direct et d'interaction avec vous, bien entendu, mais aussi avec notre invité. Eh bien, il a moins de 40 ans. C'est une figure incontournable, on peut dire, du service public de l'audiovisuel. À son actif, Slam, la carte au trésor, je ne vais pas toutes les citer, mais aussi un personnage dans Fort Boyard depuis deux saisons. Il est insatiable, on va dire. Cette fois, il est appelé à la rescousse sur France 2. Pour présenter le divertissement spectaculaire, Cyril Ferraud, bonjour.
Bonjour Philippe Larocque, comment ça va?
Très bien, et vous-même?
La dernière fois qu'on s'est vu, c'était il y a 10 ans.
Ouais, on n'a pas changé.
Et on se disait qu'on se tenait pas mal, et vous et moi, hein, pour l'instant.
Ouais, ouais, bah...
non, ça va. Ouais, non, franchement,
un peu de chirurgie esthétique et de maquillage.
Tout va bien. Ouais. Heureusement qu'on a Sarah Lecoeuf qui est plus jeune que nous, quand même. Hein.
Ouais, ouais, ouais. Je passe la moyenne d'âge.
Elle nous sauve pour démarrer cette émission. Samedi soir, sur France 2, vous co-présentez spectaculaire avec Jean-Marc Généreux, hein, ouais. Je rappelle, qui est était jusqu'alors seul aux commandes. La première a été diffusée il y a quasiment
un an.
Alors l'émission, ça a été un peu laborieux en termes d'audience, dans les 2 millions à peu près de téléspectateurs qui étaient au rendez-vous. Est-ce qu'il faut sauver le soldat Jean-Marc?
Non, parce que déjà l'émission était à plus de 10% de part de marché à l'époque. Aujourd'hui, on est content quand on fait plus de 10% de part de marché en prime time. C'est une émission vraiment qui est faite pour le service public spectaculaire. C'est la grande émission de spectacle de France 2. Il
spectacle
faut une
vivant,
émission comme ça, de spectacle vivant. Donc il va y avoir des numéros de cirque, des numéros de cabaret, des numéros de magie, des acrobates. Il va y avoir vraiment ce qu'on doit montrer en prime time sur France Télévisions. Nous, on a la chance, on est parisiens, on a la chance d'aller au théâtre si on a envie, de pouvoir aller au cirque, de pouvoir aller voir des spectacles de cabaret. Il y a plein de gens en France qui n'ont pas cette possibilité parce qu'ils n'ont pas les moyens, parce qu'ils n'ont pas ces spectacles près de chez eux, parce que tout simplement, c'est pas pratique pour eux d'y aller. Donc, il fallait relancer cette émission dans une nouvelle formule parce que la première avait quelques défauts qui ont été largement corrigés. Et là, on revient avec une formule qui n'a rien à voir, c'est-à-dire qu'évidemment, il va y avoir du spectacle. On a pris vraiment les meilleurs artistes dans toutes les disciplines, mais on va insérer du jeu dans ce prime, puisque je vais avoir des invités en plateau, quatre invités qui vont jouer avec ces numéros. C'est-à-dire qu'après chaque numéro, je vais leur poser des questions sur le numéro qu'on vient de voir, des questions d'observation, des questions sur la hauteur, par exemple, maximale que l'acrobate a atteinte pendant le numéro, vous voyez, avec combien de parapluies a jonglé tel artiste.
C'est qui les invités, justement?
Alors, Jean-Philippe Janssen, Anne Roumanoff, Lola Dubini et Dave. Donc, autant vous dire qu'on va se marrer. Ça n'existait pas dans la première version. Et au fur et à mesure de la soirée et des bonnes réponses de nos candidats, on fera monter une cagnotte pour une association. Et puis, on va faire connaissance avec les artistes aussi, c'est-à-dire qu'après les numéros, Jean-Marc Généreux sera avec eux pour qu'ils nous expliquent combien d'années d'entraînement demande tel numéro, si on a envie, par exemple, de se lancer dans telle ou telle discipline artistique, qu'est-ce qu'il faut avoir comme qualité. Voilà, on va faire connaissance davantage avec ces artistes. Moi, j'y tenais beaucoup à ça. Et c'est vraiment une nouvelle formule qui n'a rien à voir avec la précédente et j'espère qu'elle plaira aux téléspectateurs parce qu'elle a sa place sur France 2.
Une nouvelle formule. Est-ce qu'engager Cyril Ferraud, c'est finalement un gage de réussite?
Ah bah, alors je serais très bien prétentieux de vous dire oui, je devrais vous dire ça, évidemment. Non. En revanche, là, il y avait une vraie, de venir me chercher pour spectaculaire, ça venait de plusieurs raisons. La première, c'est que moi, je sais présenter un jeu. Donc, comme l'idée, c'était de rajouter du jeu dans spectaculaire, c'était pas idiot.
Une mécanique.
Par ailleurs, ça fait presque 10 ans que je présente le Festival du Cirque de Monte-Carlo sur France 3, qui est quand même le rendez-vous de tous les plus grands artistes de cirque du monde. Donc, s'il fallait trouver une légitimité, on l'a, celle-ci. Et puis, il y a ce duo avec Jean-Marc qui fonctionne très, très bien. D'abord parce que c'est, je pense, l'un des garçons les plus gentils que j'ai rencontrés dans ma vie. Mais vraiment, j'ai eu un coup de foudre amical pour lui. Et puis, parce que on est complémentaires. On ne sait pas faire la même chose. Moi, je sais piloter une émission, je sais gérer un plateau. Jean-Marc, c'est un artiste, c'est un metteur
danseur,
en scène,
aussi.
C'est un danseur. Donc, il connaît les artistes, il sait décrire la difficulté d'un numéro bien mieux que ce que je pourrais le faire. Et c'est pour ça que ça a si bien marché.
Nous sommes en direct, hein, vous l'avez entendu, avec Cyril Ferraud, sur Figaro Live. Vous pouvez envoyer vos commentaires, vos questions, n'hésitez pas. Est-ce que vous êtes fidèle de ces jeux? Est-ce que vous allez suivre dans sa nouvelle aventure de spectaculaire? Pardon, je vais y arriver.
C'est dur à dire. Hein.
Spectaculaire, je le redis. Oui, mais auriez-vous le voir peut-être demain sur d'autres émissions? Dites-nous tout et en attendant, on retrouve Sarah Lecoeuvre pour les news médias du jour. Bonjour Sarah.
Bonjour et rebonjour Cyril.
Salut Sarah.
Tradition oblige, on démarre par les audiences télé de la veille. Je sais que vous êtes accro des chiffres, ça tombe bien.
Eh oui, et France 2, hier soir, lançait en grande pompe sa mini-série événement Germinal à 2 millions d'euros l'épisode. Eh bien, c'est une réussite pour la chaîne du service public. Un peu plus de 4 200 000 téléspectateurs ont regardé les deux premiers épisodes en moyenne. Ça représente un peu plus de 20% de part de marché. France 2 est devant M6, ça y est, je me mélange. M6 est le deuxième épisode de la saison 16 de La France a un incroyable talent à 3 200 000 fidèles et 16% du public. En une semaine, l'émission de Karine Le Marchand gagne quand même 400 000 personnes et 2% de part d'audience quasiment. Donc, c'est une jolie performance. Et TF1, ça y est, sur la troisième marche du podium avec Good Doctor, la série américaine qui a convaincu hier soir 2 millions de personnes et 12% du public. Et du côté de la TNT, eh bien, c'est TMC qui tire son épingle du jeu avec cette très jolie performance réalisée par le troisième volet des Tuches 3. 1 400 000 personnes devant et 6,8% de part de marché.
On parlait d'incroyable talent sur M6. Est-ce qu'il y a de l'incroyable talent dans Spectaculaire, un peu comme type de programme?
Incroyable talent, vous avez des numéros de cirque et des numéros de cabaret dedans, mais pas seulement. Voilà, il y a de la chanson dans Incroyable talent. C'est la saison 16, vous disiez, c'est
ouais,
ça, d'Incroyable
16.
Talent. C'est quand même formidable d'avoir une 16e saison pour un divertissement comme ça. C'est très bien fait, Incroyable talent. Vraiment, moi, ça fait partie des émissions que j'aime beaucoup. Spectaculaire, on n'est pas dans une compétition. On ne cherche pas à savoir quel est le plus beau numéro, où il n'y a pas de buzzer, on n'est pas là pour critiquer. On est juste là pour assister à un spectacle de folie. Voilà, qu'on ne pourrait pas s'offrir en temps normal.
On poursuit avec une information un peu plus triste. Philippe Bouvard a révélé qu'il avait contracté le Covid-19.
Oui, tout à fait. L'ancien animateur des Grosses Têtes a donné une interview au journal belge Soir Mag et il nous apprend qu'il a attrapé la maladie. Alors, c'était il y a quelques mois, mais aujourd'hui, il en garde quand même des séquelles. Le journaliste de bientôt 92 ans dit qu'il a toujours cette perte du goût et ce qui l'empêche aujourd'hui, dit-il, de jouer les gastronomes au restaurant. Mais qu'on se rassure, il a reçu une troisième dose du vaccin cette semaine, je crois il y a deux jours.
Donc, et il écrit toujours d'ailleurs.
Il sort son roman, c'est pour ça qu'il est interviewé d'ailleurs.
Une année compliquée, comment vous avez vécu vous-même ces deux années de confinement et de Covid malheureusement?
Alors le confinement, c'était une période terrible parce que moi je sortais pas de chez moi non plus, on tournait plus à l'époque. En revanche, ça a permis, j'essaie toujours de voir le côté positif des choses. Moi ça m'a laissé du temps, j'ai un planning le reste du temps qui est militaire, qui est à
les
la minute près, presque avec les enregistrements, voilà, et la préparation de toutes les émissions. Donc là j'avais du temps pour me lever, pour écouter les oiseaux, pour appeler mes amis, pour appeler ma famille, pour faire des FaceTime avec des gens que j'avais pas le temps d'appeler. J'ai aimé cette partie-là, j'ai détesté tout le reste, évidemment, mais ça reste un truc qui m'a permis de me rapprocher de plein de gens.
Et vous avez fait d'autres choses que vous ne faisiez pas avant, justement, pendant cette période ?
Je faisais l'amour, Philippe.
Ah. Enfin !
Ce que je n'avais pas le temps de faire, enfin ! Vous ne attendiez pas cela ?
Non, non. Bon, on va remercier le ou les partenaires en direct.
On va peut-être pas exagérer.
Qui ont profité de ces bons moments. Merci Sarah pour ces news médias. Et on
avec
va
plaisir.
Être un peu plus sérieux pour l'interview du Buzz Télé. Avec Cyril Ferraud. Donc je rappelle, samedi soir, l'émission Divertissement Prime Time, c'est sur France 2. Spectaculaire, vous faites équipe avec Jean-Marc Généreux. C'est un gage de bonne humeur et d'humour, Jean-Marc Généreux.
Ah ouais, parce qu'il déborde d'énergie. Mais pas seulement. En fait, quand on nous a présenté, parce qu'on se connaissait très peu...
Vous aviez quelle image, j'imagine, de Danse avec les Stars?
J'avais l'image de quelqu'un d'hyper sympa, de juré de Danse avec les Stars, qui vient avec toute la sympathie, le sourire des Québécois. Voilà. Mais j'avais aussi l'image de quelqu'un qui, dans Danse avec les Stars, était capable de juger une performance, d'expliquer pourquoi elle était réussie, pourquoi elle était loupée parfois. Et le premier dîner qu'on a fait... Jean-Marc et moi, je lui dis, tu sais, il faut pas que je sois animateur de l'émission et que toi, je lui dis, on doit vraiment faire une co-animation. C'est-à-dire, l'idée, c'est pas que toi, tu sois juste là pour faire le con, pour faire le guignol,
faire valoir,
etc. Quoi. Non, et j'avais pas envie de ça.
Il l'a pas mal pris, d'ailleurs, de se voir.
Alors, je vais même vous dire, il l'a dit dans plein d'interviews, il était hyper content d'avoir quelqu'un qui le rejoigne.
Un peu soulagé, d'une certaine manière.
Je sais pas si c'est soulagé, mais en tout cas, il était content que quelqu'un gère le plateau. Et qu'après, Jean-Marc fasse quelque chose qu'il sait faire et qu'il aime faire. Et très vite, c'est pour ça que nos rôles ont été répartis de façon hyper naturelle. Jean-Marc, dans l'émission, vous allez voir, il va nous expliquer pourquoi tel numéro est difficile, il va nous expliquer combien d'années d'entraînement ça demande, il va nous expliquer les titres mondiaux qu'ont peut-être remporté certains
artistes.
C'est
l'œil du metteur en scène, en fait.
C'est l'œil du spécialiste, du metteur en scène et de l'artiste qui a l'habitude d'être sur scène et de côtoyer d'autres artistes.
Sarah, première réaction ou question ou commentaire aux déclarations tonitruantes de Cyril Ferraud sur ce plateau.
Et oui, il y a du monde sur le chat, sur YouTube de TV Magazine. Alors, je vais grouper des questions pour voilà, poser le plus possible. Celle d'Antonin, quand verra-t-on les animateurs dans Slam et à quand le retour du public dans l'émission? Voilà,
alors,
une double question.
Alors, on va passer à Slam directement.
Les animateurs. Slam, c'est 13e saison. On a fêté il y a deux jours les 12 ans de l'émission. Donc,
c'est
on démarre notre 13e
en
saison en quotidienne. Avec le Grand Slam aussi le dimanche, qui est la version des champions. Alors, des animateurs dans Slam, on en fait de temps en temps pour des opérations spéciales, pour le SIDAction, pour le Téléthon, pour la lutte contre le cancer. Donc, en fait, on en a quand même deux ou trois fois dans l'année, lors d'émissions spéciales. Slam, le problème, c'est que quand on faisait des semaines spéciales animateurs, les téléspectateurs nous disaient « ça joue pas assez, le niveau est pas assez haut, etc. » Donc, c'est pour ça qu'on a décidé d'en faire un peu moins. Et le retour du public, eh ben là, voilà, petit à petit, on avait des figurants depuis des mois. Donc maintenant, on réinjecte des figurants et du vrai public parce qu'on peut maintenant, comment dire, rassembler davantage de personnes dans un public.
Vous l'avez dit, un spectaculaire, il y a de l'acrobatie, l'équilibrisme, du chant, de la magie. D'une certaine manière, est-ce que vous diriez que ça ressemble un peu ou pas, et ça a un petit goût d'arrière-goût de ce que faisait en effet Patrick Sébastien à une époque, qui vous a un peu taclé d'ailleurs, qui a taclé le service public, non, pas vous en direct hein, évidemment, mais...
Patrick, il a fait une émission formidable pendant 21 ans. Moi, je me souviens, la première fois que j'ai été invité au plus grand cabaret du monde, j'étais mais émerveillé, j'étais tellement content de participer à cette émission. Ça ne vous a pas échappé que si Patrick n'est plus sur France 2, ça n'est pas ma faute.
Non.
Moi, je crois surtout que Patrick, il a mis les artistes en avant pendant des années. Nous, avec Spectaculaire, c'est ce qu'on essaie de faire dans une formule différente du plus grand cabaret. Évidemment, voilà, on est là pour rassembler des artistes incroyables, des artistes fantastiques qui n'avaient plus depuis la fin du plus grand cabaret de place sur France Télévisions en prime time le samedi soir. Donc j'ai envie de vous dire, j'espère qu'on va réussir à faire passer d'aussi bonnes soirées aux téléspectateurs que ce que faisait Patrick avec son grand cabaret.
Digne successeur donc.
Non, parce que le digne successeur, je prends pas sa place. Voilà. En plus, il y a déjà eu un premier numéro de Spectaculaire où la com avait été assez dure quand même. C'est-à-dire tout le monde était tombé sur Jean-Marc à l'époque en disant c'est
un succès d'année.
C'est un succès d'année. C'est super dur ça peut être violent les réseaux sociaux. Voilà, on est vraiment dans une nouvelle formule de Spectaculaire qui ne ressemble pas au plus grand cabaret du monde, mais on est quand même dans la même case, donc évidemment, on ne peut pas dire que c'est une émission qui n'a pas compté pour le service public, bien au contraire.
Sans spoiler, le numéro qui vous a le plus séduit, bluffé, vous, dans ce qu'on verra samedi soir?
Alors, il y a un numéro de sangle aérienne avec un jeune homme qui a cette particularité, c'est qu'il fait des sangles aériennes après s'être immergé entièrement dans une baignoire. C'est-à-dire qu'il fait ce numéro donc, d'équilibre sans sécurité. Hein. Sangle aérienne, tu es attaché à deux sangles, tu fais des vrilles, tu fais des plein de mouvements en hauteur, jusqu'à 6 mètres de hauteur. Donc autant te dire que si tu tombes, tu te fais très très mal. Et donc, il le fait en étant entièrement mouillé. Donc, ça veut dire que pour les sangles, pour la tenue, les prises en main, etc., c'est beaucoup plus difficile et beaucoup plus dangereux. Voilà, il s'appelle Charlie Placé et ça sera l'un des numéros de Spectaculaire samedi.
Et ça s'est bien terminé.
Ça s'est très bien terminé, vous allez voir. Et en plus, il est particulièrement bien foutu, ce qui fera plaisir à plein de gens qui regarderont l'émission.
N'hésitez pas, donc c'est samedi soir. Une question, Sarah.
Oui, alors je vais prendre celle de Patrick sur lefigaro.fr. Avez-vous peur de la concurrence samedi? C'est vrai que vous êtes face aux 20 ans de la Star Academy.
Ah, je pense qu'on est face à un rouleau compresseur. Hein. Sincèrement, non mais voilà, les 20 ans de la Star Academy, c'est très fort.
Premier prime, ouais.
Alors, il y a trois primes. J'aurais adoré être en face du troisième.
Manque de bol.
Voilà, non, mais c'est les hasards de la programmation. Voilà, je suis très mauvais pronostiqueur. Il y a plus de deux semaines, j'ai présenté le Quiz des Champions sur France 2, qui était une émission que je présentais, que je produisais pour la première fois, qui était la Ligue des Champions de jeux télé, que j'ai adoré présenter et que je rêvais de faire depuis des années. Je me suis couché en me disant, allez, si on fait 11% demain, je serais très content. Je me suis réveillé, j'ai vu 16,2%, qui était un score mais hallucinant, vraiment hallucinant. Donc, je suis mauvais pronostiqueur. Donc, peut-être que Ça sera moins fort que ce que j'imagine. J'espère vraiment que les téléspectateurs seront là pour Spectaculaire, parce que c'est une émission qui vaut le détour. Vraiment, vraiment.
L'idée, c'est quoi? C'est qu'il faut faire plus de 10% de part d'audience, plus de 2 millions, sinon c'est la casse. C'est malheureusement...
Alors, on a déjà fait un deuxième numéro. C'est toujours pareil, c'est-à-dire
que... Il est déjà mis en boîte, aujourd'hui.
Il a déjà été tourné, voilà. Évidemment, oui, il faut faire plus de 10%. J'espère qu'on fera plus de 10%. Après, il faut toujours tenir compte de la concurrence. Si en face, on a une Star Academy qui est très, très puissante, évidemment... La chance sera laissée au deuxième numéro.
Un bonus ou un malus, d'une certaine manière.
Bah oui, mais c'est la télé, c'est la loi de la programmation.
Sarah.
Oui, je vais poser la question d'Alexandre. Est-ce que vous aimeriez devenir comédien ou acteur, notamment dans une série sur France 3?
Alors, on me l'a proposé. J'ai fait une petite apparition déjà dans Plus belle la vie, qui était vraiment furtive.
Ouais.
J'ai beaucoup aimé faire ça. D'abord, je ne sais pas si j'ai le talent pour faire ça. C'est un vrai métier d'être comédien. Il y a plein d'animateurs qui ont lancé leur série, qui se sont essayés à la comédie. Certains avec beaucoup de talent, d'autres avec beaucoup moins de talent, on va être franc.
On ne citera pas de nom, mais
je pense qu'on pense au même. mais non, ce que je veux dire, c'est que c'est un vrai métier. Donc, je ne sais pas si je serais bon pour ça. Aujourd'hui, je pense savoir animer une émission. Je ne suis pas sûr d'être un bon comédien. On m'a déjà proposé de jouer dans une fiction. Aujourd'hui, il y a un problème de planning. C'est-à-dire que pour avoir un rôle important dans une fiction, il faut pouvoir se libérer minimum 3 semaines, au mieux 1 mois. Et avec mon planning, c'est impossible. Parce que entre Slam, le Grand Slam, la carte au trésor, Spectaculaire, le Quiz des champions, le Festival Interceltique de Lorient, et voilà, et tous les primes que j'ai la chance de présenter, bah, le planning est serré.
Alors, le Festival Celtique de Lorient.
Alors, ce sera cet été, j'espère, enfin, le retour du Festival Interceltique après 2 ans où on n'a pas pu proposer d'épisodes inédits. En revanche, dans la même veine que le spectacle, que le Festival Interceltique de Lorient, on va proposer sur France 3 une nouvelle émission dans quelques semaines qui va s'appeler « Quelle est la meilleure danse folklorique de France ?». L'idée, c'est de rassembler sur une scène les régions françaises, 10 régions françaises, qui vont faire la démonstration de leur danse régionale, c'est-à-dire de leur folklore régional.
Donc, en costume, avec
avec des chorégraphies préparées spécialement pour l'émission. Donc, vous allez retrouver les danseurs bretons en costume, à côté des danseurs polynésiens, avec le paille, les noix de coco, avec les danseurs provençaux, avec les danseurs venus de Savoie, les danseurs normands, les danseurs landais qui est sur leurs échasses. On a tourné cette émission il y a quelques semaines, et je vous le dis, ça va être le Miss France de France 3. Ah. Vraiment. Oui. Parce que rassembler sur une même scène... Non, mais pour le coup, rassembler sur une même scène toute la culture des régions françaises, tout le folklore des régions françaises, ça n'a jamais été fait. Ailleurs que Miss France, forcément, avec les défilés qu'on connaît. Et c'est une émission qui est d'une puissance et qui est d'une sensibilité incroyable. Parce qu'on va s'intéresser évidemment à ces troupes, à la passion de toutes ces troupes. On va montrer, et ça j'y tiens, que le folklore et la danse folklorique, c'est pas un truc de vieux, c'est pas un truc ringard, c'est pas un truc poussiéreux. Vous allez voir que tous les gens qui participent à cette émission, en moyenne, ils ont 20 ou 30 ans, parce que ce sont des passionnés, voilà, de leur culture régionale. Et j'espère vraiment que cette émission cartonnera aussi, parce que c'est de la France, en fait, voilà, c'est notre culture, c'est nos racines.
Et c'est a priori donc avant la fin de l'année.
Ça sera, alors c'est déjà tourné, ça sera peut-être avant la fin de l'année, peut-être début 2022, je ne sais pas encore.
On ne sait pas encore. Sarah.
Oui, on retourne du côté des internautes et alors tout le monde me demande à quand le retour de la carte au trésor, dans quelle région Benjamin, à quand en région Centre-Val de Loire, je crois que j'ai vu plus haut en Saône-et-Loire. Dites-nous tout, où avez-vous tourné dernièrement?
Alors, on a tourné dans le Var, on a fait tout le massif de l'Estérel qui est sublime, on a tourné dans le Vaucluse du côté d'Avignon, on a tourné dans le Cantal, on a tourné dans la Manche aussi et on tournera de nouveaux épisodes aussi dans les semaines, enfin pas dans les semaines mais dans les mois qui arrivent, parce que la carte au trésor, il faut qu'il fasse soleil, il faut qu'il fasse beau, de façon à ce que cet été, les téléspectateurs puissent avoir une grosse salve d'épisodes inédits de la carte au trésor. Et je peux pas dire où est-ce qu'on va tourner, parce qu'il faut pas donner d'indication aux candidats.
Et là, il y a une invitation, donc quelle région on a dit ?
Centre-Val de Loire.
Donc, on a
Benjamin,
déjà...
voilà.
Alors, le centre, on n'a pas vraiment fait, on a déjà fait la Loire. On verra avec Benjamin si on passe au-dessus de chez lui en hélico.
Voilà. C'est dit. Vous parliez de la pérennité, hein, quand même, de Slam. C'est quoi la recette de Slam? Pourquoi ça marche toujours aussi bien?
Parce que ça change tout le temps. Parce que ça fait 13 ans que j'ai le même producteur dans l'oreille, la même rédactrice en chef qui s'occupe des questions et qu'on fait évoluer à chaque session de tournage l'émission. On l'a fait évoluer par des jingles qu'on rajoute, on l'a fait évoluer par les typologies de questions qui changent, par ma façon d'animer. Slam, on démarrait il y a 13 ans avec un jeu de mots croisés à la télé. Tout le monde pouvait se dire « Ah, des mots croisés à la télé, mais qu'est-ce que c'est que cette idée ?» Et puis, on a mis du sourire, on a mis de la musique, on a mis du fun, on a mis des questions qui changent tout le temps. On a lancé c'est une famille dans ce jeu, Slam. C'est-à-dire que, par exemple, je vous donne un exemple, sur le plateau, j'ai une montagne de vaches en peluche. Quand vous zappez sur l'émission, vous dites « Mais attends, mais pourquoi ?» Eh bien, parce qu'au fur et à mesure des émissions, on a lancé une opération pour les enfants malades qui souffrent du cancer, c'est-à-dire que j'ai Marguerite, qui est un personnage un peu abstrait de cette émission, qui apparaît n'importe quand. Et donc, les candidats, les téléspectateurs, nous envoient des vaches en peluche qu'on offre au moment de Noël aux enfants qui sont hospitalisés en cancérologie pédiatrique. Voilà. Et aujourd'hui, c'est en rajoutant comme ça plein une ambiance particulière, des vannes, des jingles qui reviennent.
Il y a le bisou magique. Sans casser les fondamentaux, finalement.
Sans casser les fondamentaux, jamais, parce qu'on vient avant tout pour jouer. Mais si on vient pour jouer et qu'en plus on se marre et qu'on a l'impression de faire partie d'un club, ben voilà, ça aide à pérenniser les téléspectateurs.
Vous parliez d'un personnage, vous aussi, vous êtes un personnage dans
Fort Boyard.
Fort Boyard, Cyril Gosbeau, rappelle donc son nom, qui a divisé un peu les internautes et on a vu sur les réseaux sociaux. Alors vous aviez des supporters et des gens disant « mais non, ça dénature l'émission, le jeu ».
Alors je vais vous dire, en fait, tant que le personnage il plaît aux enfants, c'est gagné. Il n'a pas vraiment divisé. Il y a eu deux, trois messages un peu négatifs, mais Cyril Gosbeau, c'est une histoire magique parce que Fort Boyard, c'est l'émission qui m'a donné envie de faire ce métier, qui m'a donné envie de faire de la télé. J'ai démarré stagiaire sur Fort Boyard quand même quand j'avais 17 ans et donc des années après, j'intègre l'émission en tant que personnage, ce qui est absolument magique. Et je peux vous dire que je vais tourner sur le fort chaque été avec des étoiles dans les yeux, comme si je partais en colonie de vacances. Pour moi, je ne vais pas travailler. Et quand je reçois aujourd'hui des dessins d'enfants qui dessinent ce personnage, des gamins dans la rue qui veulent faire des photos, qui m'imitent, qui ont les trucs de Cyril Gosbeau avec et ça slime, avec le grand sourire, etc. Mais c'est dingue. Je veux dire, ça m'a permis l'émission de toucher un nouveau public, c'est-à-dire de toucher le cœur des enfants. Et ça n'a pas de prix. Alors, pour quelques tweets qui disent « Ah, oh, il est gênant, Féro, mais qu'est-ce que c'est que ce personnage ? C'est plus Fort Boyard. » Quand vous voyez les réactions des enfants, vous vous dites « Bah voilà, ce personnage, il est magique. »
Donc vous êtes reparti l'année prochaine.
Probablement, c'est pas encore calé, ça serait, c'est pas moi qui produis l'émission, c'est pas moi qui décide, mais j'espère, parce que vraiment j'y suis très attachée.
Sarah ?
Oui, on va répondre à la question de Thibaut, je l'espère, qui devance notre dernière chronique en toute franchise, parce qu'il se demande si votre pire souvenir, ce n'est pas à prendre ou à laisser à la télé.
Oh non, c'était rigolo. À prendre ou à laisser, j'y suis allé pour participer avec Cyril Hanouna et en fait, il m'a laissé les clés de la maison il est parti 20 minutes en direct sans me prévenir. Donc on m'a donné une oreillette, il m'a dit t'as une oreillette, la productrice va se guider, sauf que l'oreillette ne marchait pas. Et donc j'ai improvisé. Non, c'était pas un piège, je crois vraiment qu'il a fait ça parce qu'on s'aime beaucoup et que il s'est dit il en est capable. Donc je l'ai fait et je me suis retrouvé, c'est vrai, avec des candidats qui étaient surexcités, avec une dame qui s'est assise à côté de moi et qui laissait entrevoir beaucoup trop de choses que j'aurais pas dû voir. Mais c'est franchement un beau souvenir.
Cyril Hanouna, il a déjà essayé de vous débaucher ?
Non, parce que aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir un portefeuille de programmes et d'avoir, de toucher à des domaines tellement différents. Entre le jeu quotidien avec Slam, le jeu d'aventure avec la carte au trésor ou Fort Boyard, le divertissement de France 2 avec Spectaculaire ou le quiz des champions, la musique classique avec Musique en fête chaque année en direct des Corégies d'Orange, le spectacle vivant au sens plus large avec l'Interceltique de Lorient, le Cirque de Monte Carlo, bientôt les danses folkloriques. C'est rarissime quand même de pouvoir toucher des domaines aussi différents. Quand on est animateur à la télé, très souvent on est dans une case, on est dans une boîte, on vous dit tu fais des jeux mais tu fais que des jeux, tu fais du talk, tu fais que des magazines, tu fais de l'info, tu fais que de l'info. Donc est-ce qu'il y a une chaîne aujourd'hui qui pourrait m'offrir autant d'exposition et un portefeuille aussi large de programmes que France Télévisions ? Je crois pas.
Et vous êtes peut-être trop cher aussi pour lui.
C'est connu que sur France Télé, on est beaucoup plus cher que sur TF1. C'est très connu.
En préparant cette émission, on est tombé sur un nombre d'articles vous concernant. Hein, Cyril Ferraud prend une décision radicale sur sa vie privée.
J'en ai plein le cul.
Il met les points sur les i.
Alors je vous le dis, pardon,
ça vous agace
mal, mais...
Est-ce que ça vous agace ou ça vous amuse?
Non, ce qui m'agace...
Et pourquoi vous attirez autant la curiosité?
Bah parce que je parle pas de ma vie privée, tout simplement. Mais au bout d'un moment, à chaque fois qu'on me pose des questions, je dis « je ne parle pas de ma vie privée ». Et le lendemain, j'ai 10 articles, closer, public, même pas que ça, même des publications beaucoup plus respectables que... Enfin, elles sont toutes respectables, mais je vois hier Gala qui titre, Gala.fr qui titre « Cyril Ferraud prend une décision radicale sur sa vie privée ». Quand tu lis l'article, j'ai juste dit « je ne parle plus de ma vie privée parce que j'en ai marre d'avoir des articles qui disent que je révèle des trucs alors que je ne révèle rien ». Et il faut un article là-dessus.
On attrape ça, Lyon, franchement. Comme on dit.
Ouais, mais faites des articles sur Spectaculaire, faites des articles sur le quiz des champions, faites des articles sur Slam, mais lâchez-moi les baskets.
Vous les attaquez systématiquement ou pas quand...
Non, j'ai attaqué. J'ai attaqué une fois dans ma vie parce que être pris en photo à l'enterrement de son père, c'est quand même, je pense, le truc, le degré zéro de l'information et le degré le plus pourri. Voilà, ça c'est un truc que j'ai pas du tout digéré. Voilà, être pris en photo avec ma mère en larmes dans mes bras, si vous voulez. Voilà, allez bien vous faire foutre. Mais après, le reste, ça va, on me laisse quand même vraiment tranquille. Mais voilà, il y a des choses auxquelles il ne faut pas toucher, il ne faut pas toucher à ma famille.
Et c'est compliqué justement quand un personnage public comme vous, présent tous les jours à l'antenne, je rappelle en quotidienne, sur les écrans télé, de se protéger, d'essayer de se cacher.
Non, parce que je partage plein de trucs en fait de ma vie dans Slam, plein de choses. Tout le monde connaît ma grand-mère, mamie Simone, dont je parle souvent. Je parle souvent de ma maman, je parle de mes nièces qui vivent à Tahiti. Enfin voilà, j'ai pas de problème à parler de...
C'est peut-être pour ça que les gens comprennent pas finalement que vous n'alliez pas plus loin. Soit vous en dites trop,
mais
pas assez.
Mais quel est l'intérêt en fait? Enfin voilà, en fait, si c'est juste l'idée, c'est de dire avec qui je couche, ça regarde que moi en fait. Voilà, je pense que le jour où je me marierai, tout le monde le saura parce que j'aurai publié les bancs. Voilà, c'est pas encore arrivé.
Pour l'émission.
C'est pas encore, voilà, je vous le dirai avant.
Sarah, une dernière question des internautes.
On va revenir aux professionnels avec cette question de Mathieu. Pensez-vous un jour présenter Fort Boyard, car c'est votre émission fétiche?
Non, parce que c'est mon émission fétiche, mais je suis tellement heureux. Je suis tellement heureux d'être un personnage de cette émission. Olivier, Fort Boyard, c'est Olivier. Ça a été Patrice Lafont avant, mais c'est Olivier. Oui. Et je l'avais déjà dit ici même la dernière fois que je suis venu. Vraiment, il faut que je dise merci à Olivier Mine, parce que quel autre animateur aurait accepté d'ouvrir les portes de son émission à un animateur en poste sur France Télévisions qui, comme Olivier, présente des jeux quotidiens, qui, comme Olivier, présente des prime time. Franchement, je pense que 99% des gens auraient dit « Non, je veux pas, c'est genre, c'est faire entrer le loup dans la bergerie. » Vous voyez ? Non, on a une relation qui est très saine. Olivier, ça fait vraiment partie des amis que j'ai dans ce métier. Il est très bien à l'animation. Moi, je suis très bien comme personnage. Je suis ravi d'être là. Je suis pas là pour prendre sa place ou même pour avoir l'envie de le faire. Voilà. Fort Boyard, c'est magique, c'est une émission que j'adorais regarder quand j'étais gamin. J'ai plein d'autres émissions, je suis très heureux comme ça, vraiment.
Vous êtes franc et sincère, hein, vous l'avez découvert avec nous, ça va nous permettre justement de boucler la boucle avec notre dernière rubrique en toute franchise. Le principe, c'est évidemment de répondre avec le plus de sincérité, comme jusqu'ici, aux questions de Sarah et moi. Première question, quel est votre plus beau souvenir de carrière ?
Ah, il y en a pas mal, hein, franchement, il y en a pas mal. Là, je vais vous dire, c'est un souvenir, pour le coup, c'est un souvenir récent, c'est le succès du Quiz des Champions, qui est une émission que je présentais donc, et que je produisais, dans lequel j'ai mis beaucoup, beaucoup d'investissements personnels, de temps, il n'y a pas un plan que j'ai pas calé, il n'y a pas une musique que j'ai pas arrangée, etc. Et de me réveiller avec une audience, avec une grosse, grosse audience, avec 3 millions de téléspectateurs, c'était un kiff. Je me suis dit, ça fait plaisir quand les téléspectateurs sont là.
Et quel est votre pire souvenir maintenant de carrière ?
Pire souvenir de carrière ? Allez, on va prendre un truc un peu bête, c'est que j'ai quand même réussi à avoir un accident sur le tournage de Slam. C'est-à-dire que j'ai loupé une marche sur le décor de Slam en faisant l'imbécile, et si bien que j'ai fini aux urgences et que...
C'était récemment ?
C'est vieux, c'est il y a 12 ans. C'était la première ou la deuxième année de Slam. Vraiment, en tournant une bande-annonce comme un idiot, j'ai sauté en l'air, j'ai loupé une marche, je me suis effondré sur ma cheville, et j'ai présenté 4 émissions dans la journée, et à la 4e, j'ai dit, il faut qu'on arrête, parce que la douleur était tellement intense que j'allais tomber dans les pommes. Voilà.
Merci donc aux hôpitaux qui vous ont suivi à l'époque.
C'était une entorse, hein, c'était pas bien méchant, mais la douleur était quand même horrible.
Est-ce que, Cyril Féraud, vous avez une manie, un tic, voire un toc quand vous rentrez sur un plateau ?
Alors, oui, le jaune, c'est une couleur qui me porte chance. Voilà, depuis que je suis tout petit. Quand j'étais petit et que je rêvais d'être animateur, mon grand-père m'avait fabriqué un micro jaune. Donc aujourd'hui, quel que soit le prime que je présente, j'ai, vous savez, une petite bague jaune sur mon micro. Vous allez voir samedi pour Spectaculaire. C'est devenu une tradition, c'est devenu...
une exigence même, alors, si j'ai bien compris.
Bah, une exigence, mais alors, il y a pire comme exigence. Je pense qu'il y a des animateurs bien plus pénibles que moi. Moi, je demande juste d'avoir un petit bout de scotch jaune sur mon micro. Non, mais c'est vraiment devenu un porte-bonheur, voilà. Et c'est assez mignon comme porte-bonheur.
Et on le voit là, le jaune à vos bracelets d'ailleurs.
Ah bah oui, non mais c'est ça, j'ai toujours, il faut que j'ai un micro jaune ou quelque chose de jaune sur moi.
Et si vous n'aviez pas été présentateur, quel métier auriez-vous exercé ?
J'aurais peut-être été avocat, parce que quand j'étais gamin, il y avait cette série dingue qui s'appelait 4 divorces à la télé, et ça m'amusait de voir affaire Durand contre Durand, et de voir ces avocats qui en faisaient des tonnes en disant « Non, Madame Durand n'a pas trompé Monsieur Durand, elle est descendue dans l'arrière-boutique avec... »
Le côté théâtral, finalement.
Le côté théâtral me plaisait bien, voilà.
Et qu'on retrouve dans l'animation avec vous, quand même,
ouais,
dans les jeux.
Forcément, quand on est animateur de jeux, on a forcément un côté théâtral. Mais pour moi, il n'y avait pas d'autre option. Pour moi, l'option, c'était être animateur. J'ai rêvé de faire ce métier quand j'avais 5 ans et je me suis jamais dit « tu n'y arriveras pas ».
Si vous pouviez faire renaître une personne, une seule personne célèbre, hein, j'entends, ouais, choisiriez qui ? Je serais qui ?
J'aurais aimé pouvoir échanger quelques mots avec Michael Jackson.
Ouais, décidément. Non, mais parce que sur ce plateau de Michael Jackson.
Ah, beaucoup de gens nous ont dit, Marc, c'est vrai ?
Vous êtes le troisième cette semaine.
Sans rire. Ah, faut que je vous donne quelqu'un d'autre alors.
Non, mais c'est pourquoi, non. Justement. J'imagine le talent artistique, les chansons.
Non, bah, au-delà du talent artistique, il y a quand même peu de gens qui ont. Au-delà de sa carrière, avait un tel mythe, enfin, on engendrait un tel mythe, un tel mystère, aussi bien dans les bons que dans les mauvais côtés, d'ailleurs. Voilà, c'est quelqu'un d'assez fascinant.
Certains pensent d'ailleurs qu'il vit toujours, caché.
Oui, avec Elvis Presley et Carlos sur une île déserte. Ouais, bah, on a hâte de savoir où, hein, c'est ça.
Quel est l'objet le plus précieux que vous possédez sentimentalement, on entend ?
Alors, je peux vous le dire, c'est un lien avec Fort Boyard, c'est une clepsydre, une vraie clepsydre du fort.
Vous l'avez piqué sur le fort ?
Je ne l'ai pas piqué, non, on me l'a offerte. La première année quand je suis devenu un personnage sur le fort, vraiment, il n'y avait même pas une demi-seconde l'idée de dire « je veux tant », il n'y a eu aucune négociation d'argent, etc. J'ai juste dit « je rêve d'avoir une clepsydre », voilà. Et on me l'a, le père Foura a sacrifié l'une de ces vraies clepsydres du fort, voilà. Et j'y suis, j'y tiens, mais comme à la prunelle de mes yeux.
Elle est où aujourd'hui ?
Elle est dans mon salon.
Dans votre salon.
Voilà.
C'est original. Il vous a pas échappé comment dans une période de campagne électorale avec l'élection présidentielle. Soyons fous, admettons, vous êtes élu demain président de la République. Votre première décision.
Oh, quel enfer ! Alors moi, ça serait un cauchemar. La première décision...
Vous êtes président.
Alors c'est une très bonne question, je ne m'attendais pas du tout à ça. Peut-être une décision en rapport avec la culture. Je crois que il y a tellement d'établissements qui ont fermé, ça a été tellement dur cette période pour les artistes qu'on a aidé, ils ont eu des aides, mais pas suffisamment certains pour garder leur théâtre ouvert. Il y a tellement eu de faillites, il y a tellement eu de chômage, il y a tellement d'artistes qui n'ont pas pu être aidés à hauteur de ce qu'ils attendaient, que j'essaierai de claquer des doigts et de trouver une façon de pouvoir réouvrir les théâtres, les spectacles. Et ça rejoint ce que je vous disais sur Spectaculaire. Il y a plein de gens qui aujourd'hui n'ont même pas les moyens d'aller au spectacle. Voilà, c'est pour ça qu'il faut faire une émission comme ça. Et voir du cirque, voir du cabaret, voir des numéros comme ça, ça fait quand même partie du kiff, voilà, du kiff quotidien qu'on peut avoir pour changer les idées. Et aujourd'hui, malheureusement, il y a plein de gens qui ne peuvent pas s'offrir, voilà, ce genre de choses. Donc, il faut regarder Spectaculaire samedi.
On ne demandera pas d'argent en question.
Qu'est-ce qui vous déplaît le plus dans votre caractère et dans votre apparence physique ?
Ce qui me déplaît le plus dans mon apparence physique, vous avez que des très bonnes questions hein, ce matin. Dans mon caractère, j'ai du mal à lâcher prise. Alors ça, pour le coup, c'est vrai. C'est-à-dire que je peux passer des heures... Vous voyez, par exemple, la carte au trésor que j'anime, mais où je suis également directeur artistique, sur une énigme qui dure 30 minutes à l'antenne, je peux passer 4 heures de visionnage, quoi, à recaler des choses, des musiques, des séquences, des trucs comme ça. Temps en temps, il faut savoir lâcher du lest, j'ai un peu de mal avec ça.
Trop perfectionniste, donc.
Trop perfectionniste, ouais, ouais, ouais. Après, sur le physique, si j'avais pu changer un truc, je me regarde. J'aurais adoré avoir des yeux bleus.
Ah.
Ouais, je trouve que quelqu'un qui a les yeux bleus, vous vous noyez dans ses yeux. Voilà, moi j'ai des yeux verts. Voilà, c'est dommage. J'étais pas loin d'avoir les yeux bleus.
Je peux vous vendre les miens.
Oui, c'est ce que j'allais dire, hein, c'est ça.
Échanger.
On en parle après ce plateau. Une dernière pour la route. La chanson que vous écoutez en boucle en ce moment.
Ah bah moi j'ai une chanson culte, c'est Tahiti de Kinvé. Voilà, je vous le dis, c'est une chanson qui me donne le sourire. Sur Slam, quand j'arrive sur le plateau, Stéphane, mon chauffeur de salle, la met systématiquement parce qu'il sait que ça me met de bonne humeur. Alors, on n'est pas dans le summum de la création artistique, hein. Voilà, on va vous le dire.
Quoi, c'est très entraînant.
Mais c'est entraînant, ça fait sourire et c'est devenu un peu l'hymne de Slam. Voilà, si bien que Kinvé est venu jouer il y a pas longtemps.
C'est dit, merci Cyril Ferraud. Je rappelle, ce samedi soir en prime time, c'est sur France 2, spectaculaire, hein, dans une nouvelle mouture.
Exactement.
Évidemment, sans oublier Slam en quotidien sur France 3, et bientôt la carte au trésor aussi. Le Buzz TV, par contre, revient pas demain, mais...
Il revient demain, le Buzz TV.
Je faisais un énorme pont.
Avec un nouvel invité, chanteur, comédien, plasticien, écrivain. On lui doit le tube comme un avion sans aile. Eh bien, ce sera Charles-Élie Couture. Parce qu'il apparaît dans un épisode de Capitaine Marlowe demain soir sur France 2, maintenant.
Merci Cyril Ferraud. Et très bonne...
Cyril Ferraud dans le bon ordre.
Cyril.
Merci Philaroc. Voilà.
Merci Cyril Ferraud.
Voilà, vous l'avez bien dit.
Samedi soir dans Spectaculaire.
On se revoit dans 10 ans, nous.
Dans 10 ans.
Ah bon. Merci à tous.